Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette huitième émission du CDA, le comité de développement de l'agriculture de l'île-Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet de l'élevage, qui est donc un sujet important dans le paysage agricole local, et puis un sujet emblématique de l'île-Dieu, puisque si on se réfère à des données historiques, on peut citer quelques chiffres assez parlants. Par exemple, le fait qu'au début du 19e siècle, on avait 4000 à 5000 moutons sur l'île. On avait à cette époque-là aussi environ 500 vaches laitières, 100 bœufs de labour, de nombreux chevaux, des porcs, etc. Donc de nombreux animaux d'élevage. Donc c'est vrai que ces chiffres-là font référence à une période qui est bien différente de la nôtre, mais qui néanmoins traduisent une réalité historique. Et donc c'est vrai que cette situation à l'époque avait façonné ce qu'était l'île-Dieu à l'époque, donc à travers ses paysages, ses pratiques, son identité. Et on retrouve des traces de cette histoire aujourd'hui à travers, par exemple, donc, les paysages, toujours, les réseaux hydrographiques, la mémoire collective. Donc on voit bien que l'élevage est un peu un fil conducteur important à préserver. Il y a un chiffre aussi important qui est important à citer, c'est la répartition des terres à l'époque. Donc l'occupation du sol qui était faite au niveau agricole. L'île-Dieu fait à peu près 23 km², c'est-à-dire environ 2300 hectares. Et on avait à peu près 2000 de ces 2300 hectares qui étaient consacrés à des usages agricoles, donc soit cultivés ou en pâture, soit pour des jachères ou des terres incultes aussi qui déjà à l'époque étaient jugées inaptes à la culture. Donc si on compare ces chiffres avec la situation actuelle, aujourd'hui on a à peu près 630 hectares qui constituent la zone urbaine, 1300 hectares qui constituent la zone naturelle, et le reste qui constitue la zone agricole, c'est-à-dire très peu, environ 260 hectares. Donc l'élevage n'est pas cantonné aux zones agricoles, il peut s'implanter dans les zones naturelles aussi, à travers notamment les conventions passées avec le département dans les espaces naturels sensibles. On voit bien à travers la répartition des terres actuelles et anciennes et les enjeux de développement agricole et les enjeux globaux de développement sur l'île que l'élevage en fait est une activité prépondérante, puisque c'est une activité qui a besoin de beaucoup de foncier. Donc dans le contexte de variation climatique, dans le contexte de crise énergétique, de relocalisation des filières, en fait, quelle place aujourd'hui pour l'élevage et quelle perspective pour cette activité demain? Donc, pour en parler avec nous aujourd'hui, Émilie Sage et Pierre Sago de la ferme d'Émilie. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et Julien Dupont, donc qu'on a enregistré la semaine dernière, qui est à distance avec nous aujourd'hui. Pierre et Émilie, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement votre exploitation?
Avec plaisir. Donc nous, on s'est installé en 2011. En fait, on a repris le troupeau familial qui était constitué de 80 brebis vendéennes à l'époque. Et on a développé ce troupeau avec une nouvelle race qui s'appelle la Solognotte. C'est une race qui est menacée de disparition. Donc c'est pareil, il n'y en a plus que 3000 au monde. Donc on a augmenté le cheptel petit à petit pour passer à 180. C'est une race qu'on a choisie parce qu'en fait, déjà, elle est menacée de disparition et donc ça nous tenait à cœur de participer à ce maintien de cette au maintien de cette race. Ensuite, elle est très adaptée en fait aux végétations plus ligneuses, arbustives. On la retrouve beaucoup dans les landes bretonnes, dans les parcs naturels. Donc, on a un peu regardé ce qui se passait autour de nous, sur l'île, quelle race pourrait être adaptée. Donc, celle-ci convenait parfaitement et elle est beaucoup plus rustique en fait. Donc, au niveau des mises bas, c'est plus facile. Donc, voilà, aujourd'hui, on a 180 brebis allaitante, hein, donc pour la viande de cette race-là, et on travaille sur une soixantaine d'hectares en contrat, en convention avec le département principalement.
Merci Émilie. On va écouter Julien aussi pour nous présenter son exploitation.
L'exploitation, c'est d'abord un élevage bovin en race locale, en Bretonne pinoire. C'est un élevage mixte, c'est-à-dire viande et lait, en éco-pastoralisme, c'est-à-dire qu'on nourrit les animaux sur les zones naturelles, avec le terroir du coin.
Quelles ont été, Pierre-Émilie, au moment de votre installation, les principales difficultés? Est-ce que vous avez réussi à dépasser aujourd'hui ces difficultés?
Alors, c'est peut-être moi qui vais en parler, parce qu'au début, Pierre n'était pas complètement sur la ferme. Donc, c'est quand même un projet familial, mais je l'ai vécu d'un petit peu plus près. Donc, les principales difficultés au début, ça a été de trouver un lieu pour installer la bergerie qui accueille les mises bas et pas mal de choses quand même pendant l'année. Donc, il fallait trouver une terre agricole qui soit pas trop loin des zones de pâture, qui soit en même temps pas trop loin des zones urbanisées par rapport à tous les réseaux d'assainissement et à plus de 50 mètres des habitations par rapport aux règles sanitaires. Donc, ça faisait beaucoup de facteurs et en même temps des zones à vendre parce qu'il n'y a pas beaucoup de propriétaires qui étaient disposés à vendre. Une fois qu'on a trouvé cette parcelle, on a été soutenu par la mairie, le collectif agricole et aussi par le département. Parce que comme je l'expliquais tout à l'heure, on a doublé le cheptel. En fait, pour vivre de cet élevage, 80 brebis, c'était pas du tout possible. Donc, il fallait vraiment augmenter la taille du cheptel et donc les zones de pâture. Et donc, ce partenariat qui s'est conforté avec le département a rendu les choses possibles. Et donc, les difficultés, c'était également de trouver comment nourrir ce troupeau. C'est-à-dire qu'on a des surfaces, ça peut paraître grand, hein, 60 hectares. Tout à l'heure, tu donnais les chiffres des zones agricoles. Donc, on était sur 200 hectares à peu près. Donc, 60 hectares en pâturage, c'est pas énorme sur l'île-Dieu parce qu'on est sur des terres très peu profondes avec, du coup, un rendement peu élevé. Alors, Pierre, tu me diras si je me trompe, mais je pense que dans le Marais breton, on fait du 4-5 tonnes à l'hectare de foin. Et à l'Île-Dieu, au début, on faisait
au mieux 2 hectares de tonnes hectares. En fait,
ouais, au début, les premières années, je crois qu'on faisait 1,5 tonne. Maintenant, on fait un petit peu plus. Donc, les pratiques ont évolué. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est à peu près la moitié moins de foin sur la même surface. Donc, il faut plus de surface pour nourrir la même taille de troupeau. Donc ça, c'est un petit peu les difficultés. On n'a pas non plus de terre qui permette de faire des céréales. Or, pour faire des agneaux, il faut que les brebis fassent du lait, et donc il faut qu'elles aient quand même une alimentation assez riche au moment de la lactation. Donc on est obligé de les complémenter. Et donc pour ça, du coup, acheter en partie des céréales du continent, de la paille pour faire de la litière. Comme il n'y a pas de culture de céréales, il n'y a pas de paille non plus. Donc des coûts de transport, des coûts d'aliments aussi, parce qu'en bio, on est en bio, c'est forcément beaucoup plus cher. Et donc, on espère, on tend vers une autonomie, en fait, de notre élevage. Mais pour l'instant, jusqu'à présent, ce sont les principales difficultés auxquelles on a été confrontés. À moins que j'oublie des choses, Pierre.
Non, je pense que tu as à peu près fait le tour.
Donc, on voit qu'il y a beaucoup de difficultés qui s'accumulent quand on évoque le sujet. Et au niveau des leviers, tu as cité le département, la mairie, le collectif agricole. Des partenaires, en fait. Est-ce qu'il y aurait eu d'autres leviers ou ces mêmes leviers? Est-ce que tu peux un peu développer cette question?
Peut-être Pierre, parce que maintenant, c'est toi qui as repris pas mal la gestion du troupeau et depuis quelques années, tu as quand même mis des choses en place.
Alors, pour l'élevage, en fait, on a été content de pouvoir échanger avec d'autres éleveurs du continent qui nous ont mis en relation, qui nous ont fait découvrir des pratiques un peu nouvelles. Je fais référence par exemple au réseau Pâturajuste, qui est un réseau qui vise à améliorer le pâturage par les animaux d'élevage. Et donc ça nous a amené à faire du pâturage tournant depuis déjà plusieurs années. Et depuis 2 ans maintenant, on fait du pâturage tournant dynamique, c'est-à-dire qu'on change vraiment très régulièrement les animaux de place pour valoriser la flore qu'ils trouvent sur l'île. Voilà. Donc ça nous permet de finalement mieux nourrir les animaux. Ça prend du temps, évidemment, puisqu'il faut déplacer des enclos mobiles qu'on fait avec des filets. Mais c'est assez efficace.
Ça permet aux troupeaux, si on vulgarise un petit peu, c'est comme si aux enfants, on leur donnait des brocolis et des bonbons, en fait, à quantité illimitée. Ils mangeraient que les bonbons. Et si on leur disait, vous avez cette quantité limitée, ils finiraient quand même par manger les brocolis.
Ils auraient faim.
Ils auraient faim. Et donc, pour les moutons, en fait, on les met sur une toute petite surface. Et donc, plutôt que de les mettre sur des grandes, grandes surfaces où là, ils mangeraient que ce qu'ils aiment, on les met sur une toute petite surface pendant un temps très limité. Et du coup, ils sont obligés de manger même ce qu'ils aiment un peu moins. Et du coup, ils ne laissent pas ce qu'on appelle des refus qui finalement poussent trop haut et sont plus comestibles. Une herbe qui va durcir, après, ils vont plus pouvoir la manger et on va être obligé de passer avec un tracteur de l'énergie fossile pour la broyer et que la nouvelle herbe repousse à nouveau. Donc là, en faisant comme ça, ce pâturage tournant dynamique, on est sûr que les moutons mangent tout. Et ensuite, ils passent sur une nouvelle parcelle derrière. Puis aussi au niveau sanitaire, ça nous rend des services.
Le parasitisme, puisque les moutons, du coup, mangent. Finalement, c'est comme s'ils découvraient un nouveau territoire tous les jours. Le retour sur prairie est du coup augmenté. En fait, on arrive à des temps de retour assez longs, de 30, 40 jours, qui ne sont pas si longs, mais qui sont quand même assez longs pour qui permettent de diminuer le nombre de parasites, en fait. que les moutons peuvent manger.
Les moutons vont pas se réinfester en revenant directement sur la parcelle sur laquelle ils étaient, en fait.
Voilà.
Ça coupe le cycle du parasitisme.
Merci pour cette approche très pédagogique. On va écouter Julien, justement, sur les leviers qui ont permis son installation et puis sur ses pratiques agricoles également.
Les leviers, ça a été... Bon, déjà, une formation a été nécessaire. Le contact avec les éleveurs bovins aussi. Le contact avec les associations
Les institutions.
Les institutions, voilà. Ça a été important pour pouvoir s'installer, sachant que c'est compliqué en zone naturelle.
Et donc, Julien, au niveau de l'adaptation de tes pratiques, comment tu t'y es pris ?
Les pratiques que nous, on a appris en formation, on a essayé de les appliquer, évidemment. On s'est rendu compte qu'en fait, ça ne fonctionnait pas comme ça. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment, on les a appris, c'est par expérience, en fait. Telle action a telle conséquence, donc du coup il a fallu adapter la nourriture des animaux, le complémentage des animaux, les rotations de pâture. C'est assez complexe en fait, mais effectivement, ce qu'on a appris à l'école, c'était pour élever des vaches en bâtiment, alors que en pleine nature, c'est pas les mêmes difficultés.
Quelle piste de travail tu pourrais citer ?
Forcément, ça serait simplifier l'export et l'import de nourriture et de bêtes à abattre, forcément. Ça serait une piste à évoluer. Peut-être que sur la zone naturelle, me donner un petit peu de droit d'amener des essences un peu plus nourrissantes, comme semer un peu de céréales pour les périodes un petit peu transit, comme la fin de l'été ou le début de l'hiver, quoi, pour avoir un fourrage un peu plus nourrissant. Pour maintenir une production, c'est le problème principal de la production laitière, en fait. C'est que le terroir, la nourriture disponible, en fait, il y a des moments où le rendement, en fait, tombe naturellement, hein, parce que les fleurs ont fini de fleurir et les graines ont fini de grainer, et du coup, il n'y a plus grand-chose à manger. On peut nourrir les bêtes, mais on a du mal à les faire produire du lait.
On voit ici la diversité des pratiques agricoles qui sont nécessaires à l'activité d'élevage en contexte insulaire. Et Pierre-Émilie, si vous deviez résumer les enjeux du développement maintenant de votre activité dans ce contexte insulaire, quelle piste de travail vous pourriez citer ?
Alors, on a différents sujets de réflexion sur lesquels on travaille pour essayer de faire évoluer l'élevage. Donc ça passe de la culture du miscanthus, qui est une plante qui peut servir à remplacer la paille, que certains éleveurs commencent à cultiver sur le continent, en allant jusqu'à, pourquoi pas, de la luzerne, donc une graminée, une plante plutôt, oui. Qui est riche en protéines et qui sert à nourrir les animaux quand il y a moins d'herbe ou pas d'herbe du tout. Donc ça, c'est des sujets liés au fonctionnement de l'élevage. Et il y en a d'autres aussi.
Liés au réchauffement climatique, on se rend compte que il serait bien de garder en fait des solutions de pâturage sous bois pour garder la fraîcheur en fait pendant les périodes très sèches de l'été. Et donc on travaille déjà en ce moment avec ce qu'on appelle du bois fourrage. On coupe les branches basses, et quand il n'y a plus du tout rien à manger pendant l'été, et surtout que là c'est de pire en pire chaque année, les animaux peuvent continuer à manger un peu, et ça entretient en même temps les haies. Et il y a des vertus médicinales aussi dans les arbres, hein, comme dans les saules en fait, qui permet aussi de garder les animaux en bonne santé. Après, les pistes de travail, c'est vrai qu'il y en a pas mal, hein. Pour aller de façon plus large aussi, on travaille sur la problématique de l'abattage et du transport des animaux. Aujourd'hui, on peut pas, y a pas d'abattoir sur l'île, donc on est obligé, comme pour les vaches, de les faire prendre le bateau, et l'abattoir est sur le continent, la viande revient. Ça suppose pas mal de contraintes en termes de nombre d'animaux qu'on peut envoyer à la fois. Parfois, à cause des canicules aussi, on peut pas déplacer les animaux, donc on est contraint par les horaires des marées. On peut pas déplacer nos horaires en fait en fonction de la météo. Et donc, ce projet d'abattage sur l'île va devenir un sujet prioritaire, je pense.
Ok. Et donc, au niveau des perspectives, on va maintenant écouter Julien, qui va nous parler de son point de vue pour l'avenir de la filière bovine sur l'île d'Yeuf.
Oh, bah moi, je pense que la filière bovin, là, vu le contexte actuel, si on continue comme ça, c'est quelque chose à développer, parce qu'on aura besoin d'autonomie plus tard sur l'île. Je pense que plus ça va aller, plus l'énergie va être chère, et si on ne produit pas chez nous, bah ça va être très très cher. Voilà. Alors que là, en élevage comme ça, en éco-pastoralisme, et ben, on arrive à produire à des coûts très bas, et à rester, comment dire, comment adapté au porte-monnaie de chacun. Voilà. C'est l'enjeu en fait. C'est vraiment produire local pour être consommé local et adaptable au porte-monnaie de chacun, quoi. En faisant manger, entre parenthèses, la nature aux animaux, ça permet de ne pas faire d'intrants et de ne pas faire exploser le prix de la viande.
Donc on entend Julien qui nous parle de l'éco-pastoralisme et de ses perspectives de développement. Qu'est-ce que vous auriez comme vous, comme point de vue par rapport à la filière ovine?
Bah, je pense que la filière ovine, comme l'a dit Julien, on travaille aussi en éco-pastoralisme. Donc on peut espérer que dans 20 ans, l'élevage ovin, l'élevage bovin soit toujours là et qu'effectivement ils jouent tous les deux leur rôle bah, d'entretien du milieu, de la biodiversité. On voit qu'il y a beaucoup d'ornithologues qui viennent observer les oiseaux dans les zones de pâture. Donc on peut espérer que ça continue à la fois pour le manger local, à la fois pour la biodiversité générale. Et ben, on espère que dans 20 ans, on aura trouvé des pistes d'amélioration pour être plus autonome dans notre élevage sur l'île, plus résilient. Et puis trouver des solutions. Alors, ça ne va pas forcément seulement à l'échelle de l'île, hein. Je pense que c'est Julien en parle aussi. Il y a pas mal d'échanges avec les éleveurs du continent parce qu'on a des problématiques liées à l'insularité, mais il y a quand même beaucoup de problématiques générales liées au changement climatique et beaucoup d'éleveurs qui se posent des questions justes liées à l'environnement, aux pratiques qui peuvent changer et rendre les animaux heureux, les agriculteurs aussi heureux et fiers de leur travail et les consommateurs ben, leur permettent d'avoir des produits de qualité. Donc ben, j'espère qu'on va aller vers ça en fait, tout simplement.
Très bien, merci Pierre-Émilie pour votre participation. Merci à Julien aussi pour son interview enregistrée. Et donc je vous rappelle les actualités agricoles qui viennent. Une visite dans le cadre des Jardins du Jeudi à la ferme d'Émilie. La date est encore à caler, mais vous retrouverez toutes les informations sur le site du collectif agricole ainsi que du CDA. Et je vous rappelle aussi que la souscription est toujours en cours par rapport au projet Au fil de l'eau, qui vise donc à la restauration des réseaux hydrographiques en zone agricole et naturelle. Vous trouvez toutes les informations également sur le site internet du CDA. Merci Pierre.
Merci Arthur.
Merci Émilie.
Merci beaucoup.
À bientôt.